offre à chacun notre culte. Prenez place. La presse et le café devaient être bons. Bienvenue à chacun dans ce culte. Bonjour les enfants. Bonjour les adultes, les jeunes. Bonjour, bonjour. Nous allons commencer par les annonces.
Merci, bonjour à chacun, chacune, salut. Voilà les annonces, on vient d'en parler, hein. Accueil, café, thé, ne faut pas l'oublier, tresse, le dimanche matin, tous les dimanches matin à partir de 9h30, ça fait deux dimanches qu'on fait ça, c'est juste un peu. Voilà, il y avait un peu de monde ce matin, j'ai guigné, il y a encore la place pour plus de monde, donc voilà, si vous n'avez pas peur de vous lever un petit peu plus tôt, peut-être même dormir un peu plus tard, venez ici manger un bout de tresse. Voilà, vous êtes les bienvenus pour ce temps nouveau qu'on essaie d'introduire dans cette église. Aussi pour vous rappeler que nous allons avoir une nouvelle série d'ateliers bibliques qui commence ce mardi 9 septembre à 20h ici dans cette salle, avec pour thème général Jésus l'unique. Voilà. Normalement, si vous êtes abonné à l'Actuméra, vous avez reçu tout le programme. Si vous êtes désiré avoir quelque chose en papier ou recevoir quelque chose personnellement, venez vers moi et puis je vous donnerai tout ça. Pour l'instant, j'ai rien imprimé, c'est toujours un petit peu compliqué, mais voilà, je vous donne volontiers quelque chose si ça vous est utile. Et puis aussi vous rappeler les inscriptions pour le culte d'installation, installation de ma femme et moi-même. Voilà, donc je connais certaines choses, mais pas tout, vu que nous serons fêtés. Voilà, je sais la date, je sais qu'il faut s'inscrire, n'oubliez pas. Là aussi, vous avez dû recevoir le lien d'inscription dans l'actu Mérin. Il y a aussi une feuille que Claude Barigoli tend là-bas derrière. Il ne va pas rester comme ça tout du long, mais après, ça sera sûrement posé à l'entrée. Voilà, si jamais vous pouvez aller vers Claude, Sylvain, Dupertuis, si vous êtes perdu et que vous ne savez pas comment vous inscrire. Mais c'est important de s'inscrire parce que le repas sera préparé. C'est une surprise, je sais que ça sera très bon. Donc voilà, il faut vous inscrire, il y aura une participation de 10 francs qui sera demandée aux adultes et c'est gratuit pour les enfants. Voilà, je crois que c'est tout. À tout à l'heure. Thank you.
Louis le Seigneur, car il est bon. Son amour dure toujours. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Il m'a répondu, il m'a conduit la liberté. Son amour dure toujours. Et dans Deutéronome, c'était psaume 118, et dans Deutéronome 31, le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. C'est par ces paroles que je désirais vous accueillir dans ce culte, parce que dans notre vie, on a parfois besoin de paroles d'encouragement qui nous font du bien. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Enfants, parents, grands-parents, adultes, nous en avons besoin. L'équipe qui a préparé ce culte vous accueille, vous qui êtes dans cette salle, et vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est aussi le Seigneur, par ses paroles, qui vous a accueillis. Le dimanche, avec le culte, ça peut être une halte dans le tourbillon de nos vies et de notre pensée. Nous prions. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec nous tous ce matin, qu'elle nous achemine vers la joie qui est dessus de toute joie. Amen. Louons le Seigneur car il est bon, son amour durera toujours.
Quelques versets pour introduire cette louange qui répète les paroles que nous avons chantées dans le premier chant. Tu viens du ciel sur la terre. Au commencement était celui qui a la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Celui qui a la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plein de grâce et de vérité. De la terre à la croix, payé pour nous. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu du Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant le sort. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Du tombeau jusqu'au ciel. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Jésus les emmena hors de la ville près de Béthanie, et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Je vous prie en éternel.
Thank you.
ciel, mais il est également présent avec nous par son esprit. Il nous accompagne à chaque instant de notre vie. Adorons-le.
je viens t'adorer, je désire habiter. Proclamons encore notre foi, que cette proclamation aussi se décline concrètement dans nos vies, et non seulement le dimanche, mais aussi tous les jours de la semaine. Oui, je crois. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de
sachions les aimer, leur ai donné envie de croire en toi, de se confier en toi, de te parler, de te raconter quand ça va et quand ça ne va pas. Qu'ils aient ce réflexe quand ça ne va pas, de penser à toi. Seul avec leur moniteur, que ton Saint-Esprit les accompagne et les bénisse pendant les moments qu'ils vont passer ensemble ce matin. Amen. Au revoir les enfants, à bientôt.
Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver après quelques temps de vacances. Vous m'avez manqué, mais voir vos bouilles réjouies ce matin réchauffe le cœur. Et vous allez en croquer pour quelques semaines puisque je ne repars pas tout de suite. Très heureux de vous revoir. Nous allons reprendre ce matin et pour quelques semaines notre survol du livre des Actes. Nous avions démarré il y a déjà plusieurs mois, puis on est parti dans d'autres directions et je vous propose donc ce découpage au fil des mois qui viennent. Et puis il y a quelques mois, nous nous étions arrêtés alors au chapitre 7 et à cet épisode violent, choquant, de la mort d'Étienne par lapidation. Et nous avions relevé alors que nous ne mourrons pas tous, juste comme ça, tranquillement, dans notre lit, ayant réglé toutes nos affaires, entourés de nos proches, bercés par des CD de louanges. Ben ouais. On peut mourir au bord de la route, avec les secours qui tardent à arriver. On peut mourir dans la panique généralisée d'un naufrage, d'un funiculaire dont le câble lâche soudainement. On peut mourir dans une prise d'otage. La maladie, la foudre, l'erreur médicale, c'est possible. Mais avec Étienne, dont nous avions relevé la force du témoignage, avec Étienne, j'ai trouvé un exemple dont je veux m'inspirer. Je ne veux pas emporter avec moi la rancœur et la haine. Je veux pardonner, dès maintenant, à celles et ceux qui ont pu m'offenser. Et mes sentiments d'injustice, je les remets à Dieu. À la suite d'Étienne, à la suite du Christ, voilà également une prière que j'apprends à faire mienne. Entre tes mains, je remets mon esprit. J'abandonne tout maîtriser. Je sais que toi, tu maîtrises. Alors, entre tes mains compétentes, je remets mon esprit. Étienne, quel message, quelle force, quel gâchis. Quel gâchis ? Non. Parce qu'Étienne ne pouvait pas savoir à l'époque que parmi les responsables de sa mort se trouvait le futur apôtre Paul, qui deviendrait à son tour un témoin jusqu'à la mort. Et Étienne ne pouvait pas savoir que ses paroles et ses actes allaient porter jusqu'au cœur des gens de Mérin
2000 ans après. Alors nous allons reprendre le fil, à partir d'acte 8, ce matin. Et puis comme nous en avions pris l'habitude au printemps dernier, nous allons aussi reprendre la possibilité d'un temps de questions-réponses avec l'appli Slido et ce numéro 106-37-72 à renseigner. Donc l'appli Slido, c'est vraiment une appli toute simple d'utilisation qui nous permet d'avoir un temps d'échange après la prédication. Donc si pendant la prédication ou juste après, vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas et puis on en prendra 3, 4, peut-être 5. Vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et puis ça nous permet d'avoir ce petit temps d'échange ensuite. Et nous allons maintenir ça autour de cette série et puis peut-être d'autres sujets aussi au fil de la saison. Avant la lecture, quelques réflexions d'introduction encore. Autour des mystères des voix de Dieu. On vient de chanter « Je crois que tu es Seigneur ». Un Seigneur, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Mais où est Dieu ? Dans le malheur. Parce que la mort d'Étienne, c'était quand même un truc atroce. Il a été lynché. Au milieu des cris de haine des gens les plus religieux de son peuple, comme le sont aujourd'hui des chrétiennes et des chrétiens dans le monde, à certains endroits, lynchés, littéralement. Hier, on parlait au Nigeria d'une femme lynchée, brûlée vive, pour avoir confessé que Jésus est Seigneur. Étienne, il a probablement laissé derrière lui une femme, des enfants. Alors je sais, c'est pas mentionné dans le texte, mais le texte ne mentionne pas tout. Mais enfin, c'était un homme de son temps. L'église naissante, elle a été privée de l'un de ses éléments les plus brillants. Et le crime d'Étienne, il a sonné le top départ d'une persécution ultra-violente à l'égard des chrétiens. Les chrétiens craignaient pour leur vie à tel point qu'ils ont quitté Jérusalem en masse, à l'exception des apôtres. Où est Dieu dans tout ça ? Où est Dieu quand le mal semble triompher ? On va quand même pas dire que tout ça, c'est un mal déguisé en bien. Mais la suite de l'histoire montre que Dieu peut transcender les pires péchés de l'humanité. Il l'a fait à la croix, en faisant jaillir la vie éternelle de la mort si injuste de Jésus. Il l'a fait lors de la mort d'Étienne. Et je crois qu'il le fera certainement pour nous. Et puis, dans le prolongement de ce récit, nous allons voir d'autres aspects des voix tellement étonnantes de Dieu. Et en particulier, deux aspects. D'abord, son action dans la vie des gens. Très concrètement, son action. Et puis, son action par l'Esprit qui agit. Mais commençons par le commencement. Et je vous propose d'écouter la lecture de la première moitié d'acte 8 au verset 1 à 25.
En arrachait les croyants, hommes et femmes, et
jeté en prison.
Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de la Samarie et y proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri et de nombreux paralysés et boiteux étaient guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait la stupéfaction de la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important, et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance ». Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il est stupéfié par ses pratiques magiques. Mais quand il crut à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du règne de Dieu et de la promesse de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il ne quittait plus Philippe et il était stupéfié en voyant les grands miracles
et les prodiges qui s'accomplissaient.
Les apôtres à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient accueilli la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint.
Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et à Jean, en leur demandant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent aille à sa perte avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et supplie le Seigneur pour que, si c'est possible, il te pardonne d'avoir une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es complice du péché. » Simon dit alors à Pierre et à Jean, « Suppliez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. »
Après avoir rendu témoignage en proclamant la parole du Seigneur, les deux apôtres retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans de nombreux villages de la Samarie.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette dispersion de tous les croyants de Jérusalem? Moi, je pense que eux le vivaient comme un drame. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de proclamer le message de la bonne nouvelle. Verset 4. Un drame, proclamation du message de la bonne nouvelle. On peut penser qu'ils devaient expliquer à leurs cousins, à leurs amis, pourquoi ils quittaient Jérusalem à la hâte, pourquoi ils étaient sur les routes, pourquoi ils devaient refaire leur vie ailleurs. Ils ont même pu s'inspirer du propre message d'Étienne, du propre message des apôtres persécutés, pour dire que le rejet du Messie de Dieu était annoncé dans les Écritures, et que leur malheur n'avait finalement rien de très surprenant. Voilà ce qui s'appelle rebondir. Un grand malheur, la bonne nouvelle de Dieu. De la résilience, avant même que le terme ne fût inventé. Et ce n'est pas tout. Les chrétiens n'avaient pas prévu de le faire, mais voilà qu'ils sont en train, malgré eux, de réaliser la promesse que Jésus avait faite aux apôtres. Il leur avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et finalement jusqu'au bout du monde. » Est-ce qu'ils avaient trop traîné, les chrétiens, pour s'engager dans cette mission? C'est possible. On n'est pas réputé pour être les plus réactifs. Mais en tous les cas, le meurtre d'Étienne était un formidable coup de pied dans la fourmilière. Le bocal était agité comme jamais. Et c'est ainsi que le deuxième étage de la fusée de l'Évangile s'est allumé. Parce que Dieu agit même quand le mal semble triompher. Ça, c'est un secret pour nos vies. Dieu agit même quand le mal semble triompher. Et Dieu agit à travers ses serviteurs, ses servantes. Parce que parmi les chrétiens dispersés se trouvait l'un des propres collègues d'Étienne, prénommé Philippe. Il avait la même vision large de l'Évangile que son frère d'armes. Lui non plus ne s'est pas contenté d'un ministère pratique au service des pauvres. Il s'est donné à l'annonce de la parole, dit notre texte. Et pas n'importe où. Pas juste à Jérusalem, mais dans la capitale de la Samarie. Nous, on lit ça facile, comme ça, d'un trait, c'est dans une phrase, c'est des mots. Mais la Samarie, c'est la capitale des frères ennemis des Juifs. Ce n'était pas au hasard des rencontres que Philippe annonçait l'Évangile. Ce n'était pas dans son petit cercle familial, mais c'était auprès des gens très différents de lui, qui n'avaient même pas sa propre religion. Philippe, c'est peut-être le premier missionnaire transculturel, comme on dit. On peut regarder d'un petit peu plus près son ministère à Samarie. Parce qu'il y avait chez les Samaritains des éléments qui les avaient préparés à la réception de l'Évangile. Par exemple, les Samaritains reconnaissaient en Dieu l'unique Créateur. Ils acceptaient la loi de Moïse. Comme les Juifs, mais autrement, ils offraient à Dieu des sacrifices d'animaux. Et les Samaritains attendaient un sauveur, le Messie, Jean 4, verset 25. Seulement, ils détestaient les Juifs. Ils n'allaient pas à Jérusalem. Ça aurait été la pire chose à faire, mettre les pieds à Jérusalem. Ils ne reconnaissaient pas les psaumes, ils ne reconnaissaient pas les livres prophétiques. Mais ils avaient dans leur propre religion quelques éléments de vérité. De plus, il y avait chez les Samaritains un certain nombre de personnes qui tenaient Jésus en haute estime. Par exemple, un lépreux guéri, Luc 17. Ou une femme qui a rencontré Jésus au bord d'un puits, que Jésus a écouté, que Jésus a valorisé, que Jésus a envoyé. Elle a cru en lui, Jean 4. Et ensuite, plusieurs des propres concitoyens de cette femme, à la suite de son témoignage, ont écouté Jésus. Et ils ont cru. Philippe, là au milieu, il avait un message clair. Notre passage dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ. Ça, c'est jamais du temps perdu. Les chrétiens sont parfois réputés pour prendre la parole un peu sur tout et n'importe quoi. En particulier quand l'actualité semble être propice à faire entendre sa voix. Philippe, il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est le cœur de ce que nous avons à faire. Tout le reste n'est que garniture. Sérieusement, perdons pas de temps sur le reste. Annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais quand je regarde l'actu, quand j'entends l'actu, quand je fais mon petit revue de presse du matin sur Twitter, etc., j'ai le tournis. Sérieux. Mais vraiment, c'est où que ça va bien ? Vous l'avez, vous, le journal des bonnes nouvelles ? Et encore, nous, on n'est pas en Ukraine, on n'est pas dans la bande de Gaza, on n'est pas dans la région des Grands Lacs, mais c'est où que ça va bien ? Annonçons la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ. Moi, je pense que Philippe, il s'est inspiré d'ailleurs de la prédication de Jésus, de la prédication des apôtres. Il avait de quoi faire. Et ceux qui croient et qui s'engagent en tant que disciples de Jésus, le texte biblique nous dit qu'il les baptise. Il ne fait pas de chichi. Il n'y a pas un cours de 600 ans sur le baptême. Il croit, il les baptise. Il a donc un enseignement très complet. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus et il baptise. C'est super complet comme enseignement. Et Dieu lui-même a appuyé le message de Philippe en lui permettant ensuite de faire des miracles de guérison et de délivrance. Pas des petits miracles. Pas des trucs où on dit « ouais, bon là, sérieux, c'est surinterprété ». Non, non, ici, c'est la guérison de personnes infirmes, paralysées. Pas des petites délivrances, mais des exorcismes bruyants, nous dit le texte. Et le verset 13 parle de prodiges extraordinaires. Et voilà que l'Évangile touche même le gourou de la ville, Simon le magicien, que les gens tenaient pour la manifestation même de la puissance de Dieu. Verset 10. Simon le magicien, si je puis me permettre, c'est quand même une très belle prise. Franchement. Dieu agit même quand le mal semble triompher. Et Dieu agit aussi à travers ses missionnaires, ses serviteurs, ses servantes, des gens comme vous et moi qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors il y a de quoi être impressionné par Philippe, puis on y reviendra un petit peu la semaine prochaine. Pourtant, il y a un truc qui manque à son palmarès. Vous avez remarqué ? C'est quoi qui manque à son palmarès, à Philippe ? C'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le verset 16 dit que les Samaritains n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On se pose la question, comment c'est possible d'être libéré d'une présence maléfique sans que l'Esprit ne vienne combler immédiatement le vide laissé ? Comment est-ce possible même d'accepter la parole de Dieu, de croire en Christ, de se faire baptiser sans l'Esprit ? Casse-tête pour les théologiens. Mais le verset 16 dit que l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux, ou littéralement pas encore tombé sur eux. C'est ça le verbe. L'Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Ce sont des mots très forts qui font penser à la Pentecôte. Et autre chose qui fait penser à la Pentecôte, c'est que Simon voit que le Saint-Esprit est donné par la main des apôtres. Verset 18. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu quelque chose de suffisamment fort pour qu'il ait envie de l'acheter. Pas juste d'adhérer, de l'acheter. Probablement, à mon sens, les gens parlaient de la part de Dieu dans leur langue à eux. Il prophétisait, comme à la Pentecôte. Ce n'était pas nécessaire que Pierre et Jean débarquent de Jérusalem pour que Dieu agisse dans la vie des Samaritains. Philippe avait même fait des miracles sans que Pierre et Jean ne soient là. Mais sans la présence des apôtres en titre, je pense que la continuité entre les nouveaux chrétiens de Samarie et leurs frères de Jérusalem n'aurait pas été claire. Et sans une nouvelle Pentecôte, il est fort probable que les Juifs chrétiens n'aient pas accepté les Samaritains chrétiens. Il fallait qu'un truc se passe. Il fallait que celui qui unit les chrétiens agisse pour les unir. Il fallait que le Saint-Esprit tombe. Et il fallait donc que Pierre et Jean viennent, qu'ils leur ouvrent la porte et qu'ils facilitent les choses pour que l'Esprit descende. Dans le tout premier temps de leur conversion, les Samaritains, ils ressemblaient aux croyants de l'ancienne alliance. Croire en un Dieu unique, faire des sacrifices. Après leur Pentecôte à eux, ils sont pleinement intégrés dans le nouveau peuple de Dieu. C'est un jalon historique important dans la fondation de l'Église. Des gens qu'on n'aurait jamais pensé être là se retrouvent inclus dans le peuple de Dieu, comme dans l'Église aujourd'hui. On a un Dieu sans frontières. Dieu agit par son esprit, parfois lors d'événements exceptionnels, comme ici, et souvent de manière beaucoup plus délicate. Mais Dieu agit par son esprit. Et quand Dieu agit, et je finirai là ce matin, il faut faire attention aux contrefaçons. Parce qu'il y a un hic ici. Et le hic, c'est cette prise de guerre exceptionnelle qu'était Simon le magicien. Verset 13 dit qu'il crut et qu'il fut baptisé. Il a cru Philippe, il a cru le message de Philippe et il a été baptisé. Et son baptême devait avoir un minimum de sens. Il signifiait en principe la repentance, la rupture avec l'ancienne manière de vivre, le désir de marcher avec Dieu, la reconnaissance de Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Est-ce qu'il était sincère, Simon le magicien ? Bon, on n'en sait rien. Il était peut-être sincère au début, mais encore très marqué par des années de pratiques occultes et de supercherie. Était-il réellement converti à Christ, réellement né de nouveau, ou est-ce qu'il s'illusionnait lui-même? Est-ce que Philippe s'est fait avoir? On peut le penser. Il arrive qu'un pasteur se fasse avoir. Ça m'est arrivé mille fois. Ce que nous savons à coup sûr, par contre, c'est que Simon était fasciné par le pouvoir de Philippe. Il opérait de vrais miracles, Philippe. Pas des tours de passe-passe, pas de la tromperie à la petite semaine. Des vrais miracles. Philippe devient un modèle pour Simon. Non par sa foi ou par sa vie sainte, mais par le pouvoir qui émane de lui, par l'impression qu'il fait sur les foules, par le potentiel qu'il représente. Et il faut être très clair là-dessus. Le pouvoir et la foi ne font jamais bon ménage. Jamais. La preuve ici. Et il n'est pas seulement fasciné par le pouvoir de Philippe, il est fasciné aussi par celui de Pierre et de Jean, versets 18 et 19. La puissance de l'Esprit qui a accompagné leur ministère donnait très envie à Simon. Imaginez comment les foules vont aduler quelqu'un qui leur promet autant que Philippe, autant que Pierre et Jean. Imaginez ce que ces foules seraient prêtes à payer. S'il peut acheter ce pouvoir, le gourou va rouler sur l'or. Et c'est à cause de ce raisonnement que Pierre est tellement sévère avec lui. Il lui dit qu'il est captif du mal, qu'il est rempli d'amertume, rempli de méchanceté, que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Pierre semble dire même qu'il n'a aucune part à l'évangile, alors qu'il a été baptisé, parce qu'il a pensé argent, puissance, appropriation, exploitation des choses de Dieu, manipulation des autres, au lieu de penser vérité, sainteté et service. Est-ce qu'il y a des Simons de nos jours? Ça existe encore? Le péché de simonie, comme on dit, c'est de là que ça vient. Hein? Est-ce qu'il y a des Simons de nos jours? Ben certainement. Je pense à tous ces voyants qui font de la pub dans la presse, sur Internet. Impossible d'ouvrir une page sans qu'il y ait un pop-up pour une proposition malhonnête ou l'autre. Toutes les semaines, les médias racontent le cas d'hommes, de femmes qui ont abusé de leur influence sur les autres, qui ont vendu du vent et laissé des ruines chaque semaine. Dans tous les milieux, et y compris dans les églises, où on vous promet parfois des choses à la hauteur de vos dons financiers. Imaginez, on peut acheter le don de Dieu avec de l'argent, quand on sait ce que ça lui a coûté de donner son propre fils gracieusement pour que vous et moi on soit remis debout, qu'on ait du sens. Imaginez qu'on peut le payer. Certains chrétiens le pensent et s'endettent même pour le faire. Et c'est une horreur. Quand Dieu agit, il faut faire attention aux contrefaçons. Je conclus. Les voies de Dieu sont parfois étranges. Il agit même lorsque le mal semble triompher. Nous pouvons rester sereins, même quand ça tangue, même quand ça secoue, même quand on ne comprend pas la trajectoire des choses. Dieu agit même quand le mal semble triompher. Il est souverain. Il agit à travers ses serviteurs, ses servantes, vous toutes, vous tous. Il agit à travers nous. Il agit souverainement par son esprit, qui souffle où il veut, comme il veut. Ça, c'est son affaire à lui, c'est pas la nôtre. Et il fait des jaloux, des imitateurs, dont nous devons nous garder. Dieu agit. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie? C'est quoi qui se passe actuellement dedans? Vous le voyez, vous ne le voyez pas? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie d'église? Auprès de nos Samaritains, amen. Amen.
dit que Dieu agit même pour le mal sans triompher. Dans le texte que nous avons lu, on le voit parce que les chrétiens repartent rapidement annoncer la bonne nouvelle, se remettre en danger. On le voit par les conversions et les miracles qui se passent. Mais aujourd'hui, comment diriez-vous que Dieu agit? C'est une question que je vous pose, c'est une question à laquelle j'aimerais vous entendre répondre. Quelles sont vos idées à ce sujet? Comment Dieu agit-il aujourd'hui? Grande question. Comment est-ce que peut-être plus facile dans votre vie, est-ce que vous le voyez agir? Comment vous le voyez agir dans votre vie?
Seulement après.
On le voit seulement après. Clémentine.
Wow. Et qui nous prie de venir parce qu'il y a un qui était tenté de retourner.
Qui était
tenté de retourner, même s'il a accepté Jésus. Il vit un grand combat. Alors voilà comment Dieu agit. Comme mes reins, comme l'église sort dans la rue.
Voilà.
C'est là qu'il agit.
Au Quai Neuf, où vont ceux qui sont dépendants de drogue, deux personnes se sont converties et un vit un grand combat. Donc nous sommes invités à prier pour eux. Merci Clémentine. Denise.
Je dirais qu'il agit également dans notre quotidien. Et bien souvent, j'ai des questions, des petites choses qui ne sont pas au top. Mais j'ai des réponses, j'ai la paix. Il y a plein de choses positives qui se passent. Et je sens profondément la présence de Dieu.
Attends, voir, je vais juste prendre le micro portable.
Alors oui, souvent il répond, il agit. Il y a 2-3 jours, voilà, j'ai de nouveau reçu une réponse qui m'ordonnait la paix pour la journée. Et souvent je lui dis, waouh Seigneur, tu es vraiment génial. Et l'autre jour, une petite voix me disait, je le sais et je suis ravie que tu te rendes compte.
Avec la clientèle et ce que je désire vraiment pouvoir amener aux personnes qui viennent vers moi, c'est juste mon sourire, des petites choses, mais c'est vrai que pour la personne en face, je pense que c'est énorme, quelque chose qui n'est pas dans la vie de tous les jours. Et juste pouvoir écrire aussi sur WhatsApp aux clients, ayez une journée bénie, bonne journée.
Donc Dieu agit aussi à travers nous.
Je trouve aussi que Dieu nous rejoint au travers des rencontres, quand il y a un partage ou quand il y a un sentiment d'affection qui tout à coup passe, alors que c'est des personnes parfois inconnues, et des fois il y a cette chaleur affective qui se transmet de l'un à l'autre. Et pour moi c'est un signe.
L'inconnu de gens peut-être pas chrétiens, ça passe, Dieu passe aussi par là.
Et nous avons une deuxième question parce que vous avez pas, tout le monde n'a pas répondu à cette question, peut-être par timidité, peut-être par manque d'idées, ou peut-être parce que vous passez dans un moment où vous avez l'impression que Dieu ne fait rien, qu'il vous laisse tomber. Alors la deuxième question, c'est: qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous? Ça, c'est une réponse qui est assez personnelle. La réponse à cette question, elle nous conduit directement et très naturellement dans la prière. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous aimerions que Dieu fasse pour nous? C'est une réponse personnelle. Nous aurons un moment de silence pour que chacun puisse l'exprimer dans son cœur. Et qu'est-ce que nous aimerions que Dieu fasse pour le monde ou pour les situations que nous connaissons? Et ça, ce sera un moment que nous pourrons partager à haute voix. Nous prions. Seigneur, il y a des situations que nous connaissons et que nous aimerions t'apporter, ou nous aimerions que tu fasses quelque chose. Seigneur, nous te prions. Seigneur, j'aimerais t'apporter les malades que nous connaissons, afin que tu les soutiennes, que tu sois dans la tête des médecins qui les soignent et que tu les guérisses.
Seigneur, j'aimerais te remettre aussi la personne que Clémentine nous a parlé, la personne de Kenoff. Seigneur, que la protège, c'est-à-dire que tu lui donnes une issue à son combat, une issue pour sa vie. Seigneur, ça me fait penser aussi à cette exposition, la Méringue, le forum de C'est mon secret, où des gens parlent de leur vie intérieure, des choses qu'ils n'ont jamais dites. Ces gens écrivent sur un bout de papier ce qu'ils ont comme secret dans le cœur. Et c'est vrai, Seigneur, quand on voit la souffrance, on voit aussi que cette souffrance que les gens portent en eux. Seigneur, je voudrais te prier pour cette population. Seigneur, je voudrais te prier pour les écoliers, les étudiants, les apprentis. De leur accorder les ressources nécessaires
pour une année réussie. Je pense aussi à celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, aussi de les renouveler dans les démarches, de les garder en paix et de permettre à ces démarches d'aboutir. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, j'aimerais t'apporter les pays en guerre, ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas. J'aimerais t'apporter les dirigeants de nos pays, des pays du monde entier, afin que tu leur mettes du plan dans la cervelle, que tu leur donnes de la sagesse pour gouverner, le désir de faire du bien. Seigneur, nous sommes petits, nous nous sentons impuissants. Toi, tu pourrais influer l'histoire, s'il te plaît. Seigneur, nous t'avons exprimé nos prières dans notre cœur. Nous les avons aussi exprimées à haute voix. Nous savons que tu nous as entendus. La réponse, nous ne la verrons peut-être pas tout de suite. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi. Et nous t'exprimons notre confiance en priant ensemble avec tous les chrétiens de par le monde, la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à siècle des siècles. Amen. Nous chantons « J'ai confiance en toi ».
Et pourtant, on s'est vu, hein, mais c'est l'été encore. On avait promis un petit moment avec Slido, qui pourrait être long, parce qu'il y a 9 questions. Je ne vais pas pouvoir prendre les 9. Je vous rappelle que l'appli est anonyme, hein, vos questions, moi je ne sais pas qui les pose. Nous avons aussi Mathieu et Thierry qui m'aident à organiser les questions. Donc je vais prendre en tout cas celles qui ont eu le plus de votes. Mince, ça en fait pas mal. On va s'arrêter, mais on y va. Avec la première. Comment parler de la bonne nouvelle de Jésus dans un canton laïque qui ne nous autorise pas de parler de Jésus ? Alors, il y a une première partie qui va nous interroger, puis il y a une deuxième partie que j'aimerais nuancer. Le canton ne nous interdit pas de parler de Jésus, ni de parler de quoi que ce soit. Il y a des règles qui sont valables dans ce qu'on appelle l'espace public, et c'est normal pour le vivre ensemble. Et ça concerne les chrétiens, comme les non-chrétiens, comme les musulmans, les juifs ou les raéliens. Et moi, je vais vous dire honnêtement, je suis très content que les raéliens n'aient pas pignon sur rue. Donc, j'accepte que certaines contraintes dans l'espace public nous touchent aussi. Mais nous n'avons pas l'interdiction de parler de Jésus. Au contraire. Il y a deux éléments. Il y a l'espace public, avec certaines règles à suivre, et je crois qu'en tant que chrétien, on a tout intérêt à nous aligner sur ce que Paul nous invite à faire, c'est-à-dire le respect des autorités, et donc de chercher la conciliation avec ce que nous faisons depuis le vote du dernier colloque, et puis le dépôt de la mise en relation avec l'État, qui une fois signé, nous permet d'occuper, sous certaines conditions, l'espace public. Maintenant, l'espace public, c'est pas tout dans la vie. Parce que l'essentiel de notre vie, à nous, nous la vivons plutôt dans des relations privées. Et là, dans les relations privées, les relations professionnelles, les relations familiales, amicales, eh ben, il y a un véritable espace, j'espère, pour parler de Jésus. Mais avant de parler de Jésus, j'espère qu'on voit qu'il y a quelque chose en nous qui brille différemment. Et que c'est là que les questions viennent. Il y a un truc chez toi qui est différent de chez mes copains. J'aimerais en savoir plus. Bah ouais, faut qu'on aille boire un café. Puis tu déballes pas tout de suite. Tu peux parler de celui qui a changé ta vie, en quelques mots. Puis tu laisses venir les questions. Et puis il y a une trajectoire qui se fait. Comment parler de la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui ? Ben, il faut qu'on commence par l'incarner. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est la grâce. Et j'espère qu'on voit dans nos vies quelque chose qui s'apparente à la grâce. Peut-on être vraiment chrétien et ne pas ressentir d'appel ou d'envie à témoigner ? Alors moi, vraiment chrétien, vraiment pas chrétien, chrétien à demi, tout ça, c'est pas moi qui vais aller coller des étiquettes. J'essaie de m'en tirer à peu près pour moi. Les autres, c'est pas moi qui vais juger. Mais je pense que le témoignage, c'est compliqué. Déjà parce qu'il y a des questions de caractère. Vous l'avez peut-être compris, je suis plutôt comme ça, un petit peu communicatif. Puis il y a des gens qui le sont moins. Et puis il faut respecter ça. Et puis le témoignage, peut-être comme on l'a connu ces 50 dernières années, eh ben on n'en a plus trop envie. Moi, je ne veux pas qu'on vienne m'agresser dans la rue, sérieusement. Je ne veux pas que des amis fassent de leur amitié une condition pour que j'aille à une soirée qui m'impose. Ça m'intéresse plus. Je veux pas des trucs qu'on m'impose. Et je veux donc pas imposer aux autres des choses dont ils n'ont pas envie. Mais le témoignage, il y a mille façons de l'imaginer, à commencer par ce qu'on peut faire ici, chez nous. Dans le texte, on lit qu'il y a un baptême qui ne permet pas au Saint-Esprit de descendre. Il y a donc une façon de faire stricte. Que manquait-il ? Il y a donc une façon de faire stricte, point d'interrogation, que manquait-il ? Alors, là, le ou les baptêmes, c'est pas qu'ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de descendre, c'est qu'apparemment, et c'est un casse-tête théologique, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Bon. Moi, il me semble que pour qu'un baptême puisse être prononcé, et on va bientôt en avoir un ici, c'est que la personne confesse le nom de Jésus. Le reste ne m'appartient pas. Je ne suis pas là pour donner des bonnes ou des mauvaises notes, mais si la personne confesse le nom de Jésus, a envie de s'aligner sur le Christ, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Puis après, il y a une question de responsabilité personnelle. Allez, je prends une dernière question. Si pouvoir et foi ne font jamais bon ménage, quelqu'un a bien écouté, amen, est-ce possible d'avoir un poste à responsabilité dans la société en tant que chrétien ou est-ce incompatible ? J'espère qu'il y a plein de chrétiens qui ont des postes à responsabilité, qui ont bien étudié, qui ont fait un bon apprentissage, qui sont des collègues formidables que les chefs savent repérer. J'espère qu'il y a des chrétiens qui créent des entreprises, qui lancent des projets, qui ont du leadership. Mais ça, ce n'est pas le pouvoir. Et puis le pouvoir dans la société ou le pouvoir politique, c'est une chose. Pouvoir et foi ne font pas bon ménage dans l'Église. Parce que dans l'Église, il n'y a pas de chef. Enfin, si, il y en a un tout là-haut. Et puis il y a nous autres, qui sommes des serviteurs et des servantes. Parfois, il y a un exercice d'autorité. Ce n'est pas le pouvoir, l'autorité. Mais j'espère que dans la société, il y a et il y aura des hommes et des femmes et que nous préparons nos fils et nos filles pour ça, qui ont de belles responsabilités. Ils deviennent chefs d'entreprise, médecins, avocats, journalistes, chefs d'atelier, chefs de cuisine, maîtresse d'école, maître d'école. J'espère qu'on a ça et qu'on valorise celles et ceux qui ont du talent et qui ensuite, qui, quand ils sont dans l'entreprise, sont aussi valorisés, y compris pour les gens en responsabilité dans notre Église. Les chrétiens occidentaux d'aujourd'hui, nous, auraient-ils besoin d'un coup de pied dans la fourmilière selon toi ? Oui, sauf qu'il est là, depuis longtemps. Parce que tout bouge tout le temps, très vite. Moi, j'étais sûr que le grand coup de pied dans la fourmilière, ce serait le Covid. Et puis, bof, rien du tout. Je me suis dit, purée, il y a une guerre aux portes de l'Europe, en Europe. Bon, pas grand-chose. Parce que peut-être qu'on s'endurcit et qu'on aurait besoin de devenir un petit peu plus doux de cœur pour voir que les opportunités et les occasions sont là avant que le Seigneur Jésus revienne et mette un terme à l'histoire. Je m'arrête là pour les questions de ce matin. Je rappelle que ce n'est pas une prédication, c'est un exercice un petit peu compliqué, mais qu'on va essayer de continuer ces prochains dimanches avec l'appli Slido. Denise, on va finir avec la scène, je crois. C'est quand même vraiment bien de finir avec ça. C'est super important.
La scène, c'est un temps qui nous est donné pour retrouver Jésus, même quand dans notre vie, il nous semble qu'il n'est pas là. C'est le troisième jour après la mort de Jésus, le dimanche. Deux hommes cheminent. Ils quittent Jérusalem et rentrent chez eux. Tout en marchant, ils parlent entre eux de ce qui vient de se passer. Ils sont désemparés. Jésus est mort. Jésus n'est plus là. L'espoir qu'ils avaient mis en lui n'a plus lieu d'être. Ils ne comprennent plus très bien à rien. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire maintenant. C'est le vide. Un homme se joint à la conversation et fait route avec eux. Le soir, en arrivant chez eux, il le presse de rester avec eux. Et au début du repas, l'homme prend du pain, le partage et le leur donne. C'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Et là, ils reconnaissent cet homme, c'est Jésus. Il n'est pas mort, il est encore là. Ça en vaut la peine. Et aussitôt, ils repartent à Jérusalem pour raconter ce qu'ils ont vécu. Alors c'est ce que nous sommes invités à vivre ce matin dans la Sainte Cène. Dans le signe de ce pain rompu, retrouvons Jésus-Christ.
Je lis Matthieu 26, versets 26 à 29. C'est le repas de la Pâque, Jésus se met à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Et nous prions. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Considérons tout ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes dans la reconnaissance. Nous considérons tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, maintenant. Et nous sommes dans la confiance. Nous considérons ce que tu es en capacité de faire dans ce qui vient. Et nous nous projetons avec joie. Merci pour ce repas. Nous rappelle l'œuvre de la croix. Amen.
Ce que Jésus a fait pour nous, jamais ça ne disparaîtra. Nous allons passer dans les rangs. Prenez le pain, prenez le vin, mangez et buvez. Invitez Jésus à rester à votre table avec vous. Merci Seigneur pour ce repas qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous et que même si nous ne te voyons pas, ce que tu as fait reste et agit dans nos vies encore aujourd'hui. Accompagne-nous sur notre chemin comme tu as accompagné les disciples d'Emmaüs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. L'offrande, c'est un engagement, ça pourrait être un prolongement de l'action de Dieu, une partie de ce prolongement. C'est un engagement envers Dieu et envers l'Église. C'est un don libre. Il y a plusieurs façons de donner, ce matin pendant le culte, ou par tweet, ou aussi par versement directement par la banque. Donc ne vous étonnez pas si les gens ne mettent pas quelque chose dans leur poche. Nous chantons « Ô Dieu, tu es mon Dieu », signe de notre engagement envers Dieu. Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, bénis ceux qui ont donné, bénis-nous, bénis ceux qui vont recevoir. Merci. Amen.
et pour l'envoi et la semaine qui vient. Jésus s'approcha et il leur dit : Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites-les mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Dieu qui est avec vous tous les jours de cette semaine et jusqu'à la fin du monde vous garde, vous renouvelle, vous encourage et vous responsabilise au cœur de ce monde. Allez dans la joie, dans la paix. Très bon dimanche à toutes et tous.